Un brusque saut se produisit dans les réflexions de Pierre. Il se revit à la Madeleine, écoutant la fin de la conférence de Mgr Martin sur l'Esprit Nouveau, qui annonçait que Paris, redevenu chrétien, allait être le maître du monde grâce au Sacré-Cœur. Non, non, Paris ne régnait que par sa libre intelligence. C'était un mensonge de l'avoir dominé de la croix, de cette folie mystique et malpropre d'un cœur qui saigne. Mais il pouvait vouloir écraser Paris sous des monuments d'orgueil et de domination, tenter d'enrayer la science au nom d'un idéal mort dans l'espoir de remettre la main sur le prochain siècle. La science achèvera de balayer leur souveraineté ancienne. Leur basilique croulera au vent de la vérité, sans qu'il soit même besoin de la pousser du doigt. L'expérience est faite. L'évangile de Jésus est un code social caduc, dont la sagesse humaine ne peut retenir que quelques maximes morales. Le vieux catholicisme tombe en poudre de toutes parts. La Rome catholique n'est plus qu'un champ de décombres. Les peuples se détournent, veulent une religion qui ne soit pas une religion de la mort. Autrefois, l'esclave accablé, brûlant d'une espérance nouvelle, s'échappait de sa geôle, rêvait d'un ciel où sa misère serait payée d'une éternelle jouissance. Maintenant que la science a détruit ce ciel menteur, cette duperie du lendemain de la mort, l'esclave, l'ouvrier, las de mourir pour être heureux, exige la justice, le bonheur sur la terre. C'est là enfin la nouvelle espérance, la justice, après 18 siècles de charité impuissante. Ah, dans 1000 ans, lorsque le catholicisme ne sera plus qu'une très vieille superstition morte, quelle stupeur que les ancêtres aient pu supporter cette religion de torture et de néant! Un dieu bourreau, l'homme châtré, menacé, supplicié, la nature ennemie, la vie maudite, la mort seule, douce et libératrice. Pendant 2000 ans, la marche en avant de l'humanité aura eu pour entrave cette odieuse idée d'arracher de l'homme tout ce qu'il a d'humain, les désirs, les passions, la libre intelligence, la volonté et l'acte, toute sa puissance. Mais quel réveil joyeux, lorsque la virginité sera méprisée, lorsque la fécondité redeviendra une vertu dans l'hosanna des forces naturelles libérées, les désirs honorés, les passions utilisées, le travail exalté, la vie aimée, enfantant l'éternelle création de l'amour. Une religion nouvelle. Pierre se souvenait de ce cri qui lui avait échappé à Lourdes, qu'il avait répété à Rome devant l'effondrement du vieux catholicisme. Mais il n'y mettait plus la même hâte fiévreuse, la puérile et maladive obstination, à vouloir que, sur l'heure, un dieu nouveau se révélât, un idéal se créât de toutes pièces, avec ses dogmes et son culte. Certes, le divin semblait nécessaire à l'homme, comme le pain et l'eau. Toujours l'homme s'y était rejeté, affamé du mystère, semblant n'avoir d'autre consolation que de s'anéantir dans l'inconnu. Mais qui pourrait dire que la science, un jour, n'étanchera pas cette soif de l'au-delà? Si elle est la vérité conquise, elle est aussi, et elle sera toujours, la vérité à conquérir. Devant elle, ne restera-t-il pas sans cesse une marge pour le désir de savoir? L'hypothèse qui n'est que de l'idéal? Puis ce besoin du divin, n'est-ce pas simplement le besoin de voir Dieu? Et si la science contente de plus en plus ce désir de tout savoir et de tout pouvoir, ne croit-on pas qu'il s'apaisera, qu'il finira par se confondre avec l'amour de la vérité satisfaite? Une religion de la science, c'est le dénouement marqué, certain, inévitable, de la longue marche de l'humanité vers la connaissance. Cette dernière y arrivera comme au port naturel, à la paix mise enfin dans la certitude, lorsqu'elle aura passé par toutes les ignorances et tous les effrois. Et déjà, cette religion ne s'indiquait-elle pas, l'idée de dualité, de Dieu et de l'univers, écartée, l'idée de l'unité, du monisme, de plus en plus évidente, l'unité entraînant la solidarité, la loi unique de vie découlant par l'évolution du premier point de l'éther qui s'est condensé pour créer le monde. Mais si des précurseurs, des savants, des philosophes, Darwin, Fourier et les autres, ont semé la religion de demain, en confiant au vent qui passe la bonne parole, que de siècles il faudra sans doute pour que la moisson lève. On oublie toujours que le catholicisme a mis 4 siècles à se former, à germer en un long travail souterrain, avant de croître, de régner au plein soleil. Qu'on donne donc des siècles à cette religion de la science, dont la source poussée s'annonce de toutes parts, et l'on verra se constituer en un nouvel évangile les admirables idées d'un Fourier, le désir redevenu le levier qui soulève le monde, le travail accepté par tous, honoré, réglé comme le mécanisme même de la vie naturelle et sociale, les énergies passionnelles de l'homme excitées, contentées, utilisées enfin pour le bonheur humain. L'universel cri de justice, dont la clameur de plus en plus haute monte du grand muet, du peuple si longtemps dupé et dévoré, n'est qu'un cri vers ce bonheur où tendent les êtres, la satisfaction complète des besoins, la vie vécue pour elle dans la paix, dans l'expansion de toutes les forces et de toutes les joies. Les temps viendront où ce royaume de Dieu sera sur la terre. Et que l'autre paradis menteur soit donc fermé, même si les pauvres d'esprit doivent un moment souffrir de cette mort de leur illusion. Car c'est là une nécessité brave que d'opérer cruellement les aveugles, pour les arracher à leur misère, à la longue nuit affreuse de leur ignorance. Pierre, tout d'un coup, fut inondé d'une joie immense. Un petit cri d'enfant, le cri d'éveil de Jean, son fils, venait de le tirer de sa rêverie, et la brusque pensée l'avait envahi que lui, à cette heure, était sauve, hors du mensonge et de l'effroi, rentré dans la bonne et saine nature. Quel frisson à se dire qu'il s'était cru perdu, rayé de la vie, tombé au néant du dieu bourreau, et qu'un prodige d'amour l'en avait tiré, puissant encore, malgré sa crainte du stigmate indélébile, puisque ce cher enfant était là, si fort, si rieur, né de lui. La vie avait enfanté de la vie. La vérité éclatait, triomphante comme le soleil. C'était la 3e expérience faite avec Paris. Et celle-ci concluait, n'était pas comme les 2 premières, avec Lourdes puis avec Rome, un avortement misérable. Plus de ténèbres et plus de douleurs. D'abord, la loi du travail s'était révélée à lui. Pierre s'était imposé une tâche, la plus humble, ce métier manuel si tardivement appris, mais une tâche à laquelle il ne manquerait pas un jour, qui lui donnerait la sérénité du rôle accepté, du devoir accompli, car la vie elle-même n'était que du travail. Le monde n'existait que par l'effort. Ensuite, il avait aimé, et son salut s'était fait par la femme et par l'enfant. Ah, quel long détour pour en arriver à ce dénouement si naturel, si simple! Comme il avait souffert, que d'erreurs et que de colère il avait remué, avant de faire bonnement ce que tous les hommes doivent faire. Cette tendresse est perdue, aux prises avec sa raison. Cette tendresse qui avait saigné des absurdités de la grotte miraculeuse, que l'orgueilleuse caducité du Vatican avait ensanglantée à son tour, se contentait enfin chez l'époux et chez le père, chez l'homme confiant dans le travail selon la juste loi de la vie. Et de là, la vérité indiscutable, la solution du bonheur dans la certitude. Mais Bache et Théophile Morin étaient partis, avec leur poignée de main habituelle, en promettant de revenir causer un soir. tranquilles apôtres convaincus du lointain avenir. Et, comme Jean criait plus fort, Marie le prit dans ses bras, dégrafa son corsage pour lui donner à téter. « Oh, le mignon, c'est son heure, il n'oublie pas, lui. Pierre, vois donc, je crois qu'il a grossi encore depuis hier. » Elle riait, et Pierre s'approcha, riant aussi, pour baiser l'enfant. Puis il baisa la mère, saisi d'un invincible attendrissement, à voir ce petit être si rose et si goulu sur cette gorge de femme, si belle, gonflée de lait. Toute une bonne odeur de fécondité heureuse en montait à son visage, qui le grisait de la joie de vivre. « Mais il va te manger !» dit-il gaiement. « Comme il tire !»« Oh, il me mord bien un peu, mais c'est plus gentil, ça prouve qu'il profite. » Alors Mère Grand, la sérieuse, la silencieuse, se mit à causer, le visage éclairé d'un sourire. « Vous savez que je l'ai pesé ce matin. Il a encore gagné 100 grammes. Et le cher amour, si vous aviez vu comme il était sage, ce sera un petit monsieur très intelligent, très raisonnable, ainsi que je les aime. Quand il aura 5 ans, ce sera moi qui lui apprendrai ses lettres. Et à 15 ans, s'il veut, je lui dirai comment on devient un homme. N'est-ce pas, Thomas? N'est-ce pas, Antoine? Et toi, François ? » Les trois grands-fils, levant la tête, égayés, approuvèrent du geste, reconnaissant des leçons héroïques qu'elle leur avait données, ne semblant pas mettre en doute qu'elle vécut 20 ans encore, pour les donner à Jean, comme à eux-mêmes. Pierre était resté devant Marie, dans le ravissement de leur amour, lorsqu'il sentit derrière lui Guillaume lui posait les deux mains sur les épaules. Il se retourna, il le trouva rayonnant lui aussi, bien heureux de les voir si heureux. Et cela doubla son bonheur, cette certitude que son frère était guéri, qu'il n'y avait plus dans la maison laborieuse que de la santé et de l'espoir. « Ah, petit frère, » dit Guillaume doucement, « te souviens-tu ? Quand je te disais que tu souffrais uniquement du combat de ton cœur contre ta raison, et que tu retrouverais la tranquillité lorsque tu aimerais ce que tu comprendrais. Il te fallait réconcilier en toi notre mère et notre père, dont la querelle, le douloureux malentendu, continuait au-delà de la tombe. Et c'est fait, les voilà enfin qui dorment en paix dans ton être pacifié. Ces paroles bouleversèrent Pierre d'émotion. Une joie enflamma son visage, désormais si clair, si énergique, et il avait bien toujours son front en forme de tour, l'inexpugnable forteresse de la raison qu'il tenait de son père, ainsi que le menton tendre, la bouche et les yeux de bonté que lui avait donné sa mère. Mais l'ensemble de la physionomie s'était enfin mêlé, fondu en une harmonie heureuse d'une sérénité forte. Ses deux premières expériences avortées, c'était en lui des crises de la mère, cette tendresse pleurante, éperdue de ne pouvoir se rassasier. Et la troisième ne venait d'aboutir au bonheur que parce qu'il avait contenté dans la femme, dans l'enfant, dans la vie laborieuse et féconde, cette ardente fin d'aimer, tout en obéissant à la souveraineté de la raison, au Père qui parlait si haut en lui. La raison restait la reine. S'il n'avait jamais souffert que des combats qu'elle livrait à son cœur, il était tout l'homme, en lutte sans cesse avec son intelligence et avec sa passion. Et quelle paix de les avoir réconciliés, de les satisfaire ensemble, de se sentir complet, normal et puissant, tel que le grand chêne qui pousse en liberté et dont les branches à l'infini dominent la forêt. « Tu as fait là, » continua tendrement Guillaume, « une belle et bonne œuvre pour toi, pour nous tous, pour les chers parents, dont les ombres apaisées et réunies sont maintenant si tranquilles dans la petite maison de notre enfance. J'y songe souvent à notre chère maison de Neuilly que la vieille Sophie nous garde, et je m'imagine que, dans l'ombre du grand cabinet de travail, les morts bien-aimés se reposent délicieusement et nous attendent. Quelle paix pour eux que cette petite maison déserte! Et si je vous ai voulu ici par égoïsme, désireux de mettre du bonheur autour de moi, il faudra que ton Jean aille un jour l'habiter pour lui rendre toute une jeunesse. » Pierre, à son tour, avait pris les deux mains de son frère, et son regard dans le sien. « Tu es heureux ?»« Oui, heureux, très heureux, plus heureux que je ne l'ai jamais été. Heureux de t'aimer comme je t'aime, heureux d'être aimé de toi comme personne ne saurait m'aimer. » Leurs cœurs s'unirent dans cette ardente affection fraternelle la plus entière, la plus héroïque qui puisse fondre un homme dans un autre. Et ils s'embrassèrent, pendant que son enfant au sein, Marie, si gaie, si bien portante, si loyale, les regardait et souriait avec de grosses larmes dans les yeux. Mais Thomas, après la toilette dernière qu'il faisait au moteur, venait enfin de le mettre en marche. C'était un prodige de légèreté et de force, pesant un poids nul pour l'extrême énergie qu'il développait. Le fonctionnement en était d'une douceur parfaite, sans bruit, sans odeur. Et toute la famille, ravie, l'entourait. Lorsqu'une visite vint à propos, le savant et amical Berthe-Roy, que Guillaume attendait, l'ayant justement prié de monter, voir fonctionner le moteur. Tout de suite, le grand chimiste se récria d'admiration, et quand il eut examiné le mécanisme, quand il eut compris surtout l'application de l'explosif comme source de force, une des idées qu'il préconisait depuis longtemps, il félicita Guillaume et Thomas avec enthousiasme. « C'est une merveille que vous avez créée là, et l'emploi va en être d'une portée sociale et humaine incalculable. Oui, oui, en attendant le moteur électrique, qu'on ne tient pas encore, voilà le moteur idéal, la traction mécanique trouvée pour tous les véhicules, la navigation aérienne désormais possible. » Le problème de la force à domicile résolu définitivement. Et quel nouveau pas de géant! Quel progrès brusque! Les distances rapprochées encore! Toutes les voies ouvertes! Les hommes fraternisant enfin! Un grand bienfait! Un beau cadeau, mes braves amis, que vous faites là au monde! Puis il plaisanta sur l'explosif nouveau d'une si terrible puissance qu'il avait deviné, dont la découverte aboutissait à cette bienfaisante application. Et moi, Guillaume, qui croyais, avec toutes vos cachotteries d'inventeur, que vous me cachiez la formule de votre poudre dans l'idée de faire sauter Paris. Guillaume devint grave, il avoua, un peu pâle. J'en ai eu l'idée un instant. Mais Berthe-Roy continua de rire, en affectant de voir là une boutade, malgré le petit froid qu'il avait senti passer dans ses cheveux. « Eh bien, mon ami, vous avez mieux fait de doter l'humanité de cette merveille, ce qui n'a pas dû être commode ni sans danger. Voilà donc une poudre qui devrait exterminer les gens et qui va simplement augmenter leur bien-être. Les choses finissent toujours bien, c'est ce que je me lasse à répéter. » Alors, devant cette bonhomie supérieure et tolérante, Guillaume s'attendrit. C'était vrai, ce qui devait détruire servait au progrès. Le volcan domestiqué devenait du travail, de la paix, de la civilisation. Il avait même abandonné son engin de bataille et de victoire. Il s'était satisfait dans cette découverte dernière, la fatigue des hommes soulagée, leur labeur réduit à l'effort nécessaire et suffisant. Il voyait là un peu plus de justice, toute la justice qu'il avait pu faire pour sa part. Et lorsque, en se tournant, il apercevait la basilique du Sacré-Cœur par la baie vitrée, il ne s'expliquait pas la contagion de démence qu'il avait un instant envahie. Pour qu'il eût rêvé de destruction imbécile, inutile. Un souffle mauvais avait passé, né de la misère, des ferments épars de colère et de vengeance. Mais quel aveuglement de croire que la destruction, que l'assassinat puisse être un acte fécond, en semençant le sol d'une heureuse et large récolte. On arrive tout de suite au bout de la violence, et elle n'est bonne qu'à exaspérer le sentiment de solidarité, même chez ceux pour qui l'on tue. Le peuple, la grande foule, se révolte contre l'isolé qui croit faire justice. Le volcan, oui, mais le volcan, c'est toute la croûte terrestre, c'est toute la masse populaire qui se soulève sous l'irrésistible poussée de la flamme intérieure pour dresser les Alpes, pour refaire une société libre. Et quel que soit l'héroïsme de leur folie, leur soif contagieuse du martyr, les assassins ne sont jamais que des assassins, dont l'action est une semence d'horreur. S'ils renaissaient de leur sang, si Victor Matisse avait vengé Salva, il l'avait tué aussi, dans l'universel cri de réprobation, soulevé par son nouvel attentat, plus monstrueux et plus inutile encore. D'un geste, Guillaume, riant à son tour, dit son absolue guérison. « Tout finit bien, vous avez raison, puisque tout va quand même à la vérité et à la justice. Seulement, il faut parfois des 1000 ans. Quant à moi, je vais simplement mettre l'explosif nouveau dans le commerce, pour que ceux qui en obtiendront l'autorisation s'enrichissent en le fabriquant. Il est désormais à tous. » Et je renonce à révolutionner le monde. » Berthereau se récria, et ce grand savant officiel, ce membre de l'Institut, renté, pourvu de toutes les charges et de tous les honneurs, montra le petit moteur avec une passion où se retrouvait la vigueur de ses 70 ans. « Mais c'est ça qui est la révolution, la vraie, l'unique. C'est avec ça, et non avec les bombes stupides, qu'on révolutionne le monde. Ce n'est pas en détruisant, c'est en créant que vous venez de faire acte de révolutionnaire. Et que de fois je vous l'ai dit, la science seule est révolutionnaire, la seule qui, par-dessus les pauvres événements politiques, l'agitation vaine des sectaires et des ambitieux, travaille à l'humanité de demain, en prépare la vérité, la justice, la paix. Ah, mon cher enfant, si vous voulez bouleverser le monde en essayant d'y mettre un peu plus de bonheur, vous n'avez qu'à rester dans votre laboratoire, car le bonheur humain ne peut naître que de votre fourneau de savon. » Il plaisantait bien un peu, mais on le sentait si convaincu dans son dédain de toutes les préoccupations qui n'étaient pas la science. Il ne s'était pas même étonné lorsque Pierre avait quitté la soutane. Et il le retrouvait là, avec sa femme et son enfant, sans cesser de se montrer très désintéressé, très affectueux. Le moteur, dans sa vitesse prodigieuse, ronflait à peine, tel qu'une grosse mouche au soleil. Toute la famille heureuse l'entourait, continuait à rire d'aise devant cette victoire. Et voilà que le petit Jean, Monsieur Jean, ayant fini de téter, les lèvres encore barbouillées de lait, aperçut la machine, le beau joujou qui marchait tout seul. Et ses yeux brillèrent, ses joues se creusèrent de fossettes, et il tendit ses menottes frémissantes en poussant des cris d'allégresse. Marie, qui reboutonnait son corsage d'un geste tranquille, s'égaya, l'apporta, pour qu'il vît mieux le joujou. « Hein, mon mignon, c'est gentil, ça tourne, et c'est fort, c'est vivant, tu vois. » Autour d'elle, tous s'amusaient de la mine ébahie, ravie de l'enfant, qui aurait voulu toucher, pour comprendre peut-être. « Oui, reprit Berthereau, c'est vivant, et c'est fort comme le soleil, comme ce grand soleil qui resplendit là, sur Paris immense. » En y mûrissant les choses et les hommes. Paris moteur, lui aussi. Paris chaudière, où bout l'avenir, et sous laquelle, nous autres savants. Nous entretenons l'éternelle flamme. Mon bon Guillaume, aujourd'hui, vous êtes le chauffeur, l'artisan de demain, avec cette merveille qui va encore élargir le travail de notre grand Paris, dans le monde entier. » Pierre fut extrêmement frappé, et l'idée de la cuve géante lui revint, de la cuve ouverte là, d'un bord de l'horizon à l'autre, où le siècle prochain allait naître de l'extraordinaire mélange de l'excellent et du pire. Mais, à présent, par-dessus les passions, les ambitions, les tares, les déchets, il voyait le colossal travail des pensées, l'héroïque effort manuel au fond des chantiers et des usines, le glorieux recueillement de la jeunesse intellectuelle, qu'il savait à l'œuvre, étudiant en sciences, n'abandonnant aucune conquête des aînés, brûlant d'en agrandir le domaine. Et c'était l'exaltation de Paris, tout le futur qui s'élaborait dans son énormité et qui s'en envolerait en une clarté d'aurore. Si le monde antique avait eu Rome, maintenant agonisante, Paris régnait souverainement sur les temps modernes, le centre aujourd'hui des peuples, en ce continuel mouvement qui les emporte de civilisation en civilisation, avec le soleil, de l'est à l'ouest. Il était le cerveau. Tout un passé de grandeur l'avait préparé à être, parmi les villes, l'initiatrice, la civilisatrice, la libératrice. Hier, il jetait aux nations le cri de liberté. Il leur apporterait demain la religion de la science, la justice, la foi nouvelle attendue par les démocraties. Il était la bonté aussi, la gaieté et la douceur, la passion de tout savoir, la générosité de tout donner. En lui, dans les ouvriers de ses faubourgs, parmi les paysans de ses campagnes, il y avait des ressources infinies, des réserves d'hommes où l'avenir pourrait puiser sans compter. Et le siècle finissait par lui, et l'autre siècle commencerait, se déroulerait par lui. Et tout son bruit de prodigieuse besogne, tout son éclat de phare dominant la terre, tout ce qui sortait de ses entrailles en tonnerre, en tempête, en clarté victorieuse, ne rayonnait que de la splendeur finale dont le bonheur humain serait fait. Marie eut un léger cri d'admiration, montrant Paris du geste. « voyez donc, Paris tout en or !» Paris couvert de sa moisson d'or. » Chacun s'exclama, car l'effet était vraiment d'une extraordinaire magnificence. Cet effet que Pierre avait déjà remarqué, le soleil oblique noyant l'immensité de Paris d'une poussière d'or. Mais cette fois, ce n'était plus les semailles, le chaos des toitures et des monuments, tels qu'une brune terre de labour défrichée par quelques charrues géantes, le divin soleil jetant à poignées ses rayons, pareils à des grains d'or dont les volets s'abattaient de toutes parts. Et ce n'était pas non plus la ville, avec ses quartiers distincts. À l'est, les quartiers du travail, embrumés de fumée grise. Au sud, ceux des études, d'une sérénité lointaine. À l'ouest, les quartiers riches, larges et clairs. Au centre, les quartiers marchands, aux rues sombres. Il semblait qu'une même poussée de vie, qu'une même floraison avait recouvert la ville entière, l'harmonisant, n'en faisant qu'un même champ sans bornes, couvert de la même fécondité. Du blé partout, un infini de blé, dont la houle d'or roulait d'un bout de l'horizon à l'autre. Et le soleil oblique baignait ainsi Paris entier d'un égal resplendissement. Et c'était bien la moisson, après les semailles. « voyez donc !» reprit Marie. « Pas un coin qui ne porte sa gerbe, jusqu'aux plus humbles toitures qui sont fécondes, et partout la même richesse d'épis, comme s'il n'y avait plus là qu'une même terre, réconciliée et fraternelle. Ah, mon Jean, mon petit Jean, regarde, regarde comme c'est beau !» Pierre, frémissant, était venu se serrer contre elle. Et Mère Grand souriait, ainsi que Berthe Roy, à tout cet avenir qu'il ne verrait pas, tandis que, derrière Guillaume attendri, les trois grands-fils, les trois colosses, restaient graves, en plein labeur et en plein espoir. Alors Marie, d'un beau geste d'enthousiasme, leva son enfant très haut, au bout de ses deux bras, l'offrit à Paris immense, le lui donna en auguste cadeau. « Tiens, Jean, tiens, mon petit, c'est toi qui moissonneras tout ça et qui mettra la récolte en grange. » Paris flambait, ensemencé de lumière par le divin soleil, roulant dans sa gloire la moisson future de vérité et de justice.